repenser la consommation. Les podcasts du Cercle de l'Obsoco en partenariat avec Moustique The Audio Agency et The Conversation. Enrico Colla, professeur émérite à Novantia Business School Paris, membre de la chaire ESCP Europe E. Leclerc sur le commerce dans la société 4.0.
Bon après-midi à toutes et à tous. Je vais vous parler des stratégies environnementales, oui, des entreprises du commerce, ou plutôt de la grande consommation, les frontières entre producteurs, distributeurs, consommateurs, logisticiens et autres acteurs de la chaîne de valeur étant assez poreuses. Mais je serai quand même amené, moi aussi, à vous parler un peu d'énergie, hein, de mobilité, de finance, de mondialisation, peut-être de tendance de consommation. Face à la complexité des enjeux environnementaux, au comportement d'achat des consommateurs, aux contraintes économiques, aux régulations publiques et aux actions de certains ONG, les défis sont nombreux pour ces entreprises, notamment depuis la crise économique. Mais ce qui est intéressant est que malgré ces défis, des études émergent la conviction des managers des groupes leaders de la grande consommation que leurs stratégies de développement durable sont utiles pour améliorer leur positionnement concurrentiel. Donc, de nombreuses entreprises ont adopté des stratégies de développement durable concentrées sur les économies d'énergie, le recours aux énergies renouvelables, la réduction des déchets et des emballages. Vous voyez quelques exemples. Walmart a déclaré vouloir utiliser 100% d'énergie renouvelable, créer zéro déchet, développer les produits durables. Marks & Spencer, en Grande-Bretagne et ailleurs, d'ailleurs, a actualisé d'ailleurs en 2010 son très novateur plan A, un plan A parce qu'il n'y a pas un plan B, comme il disait, que je rappelle d'ailleurs a donné un bénéfice net à l'entreprise de 100 millions de livres. Un autre acteur britannique, Tesco, a été très actif dans la réduction des déchets, dans la lutte contre l'obésité, pour le travail des jeunes. En France, beaucoup d'entreprises se sont engagées dans des actions de développement durable, notamment après la signature de la convention entre le ministère et la FCD. Ils ont fixé des objectifs sur l'étiquetage, la hausse de produits écologiques, la réduction des émissions de CO2. Voilà beaucoup d'initiatives. Alors, dans la mesure où ces politiques permettent des réductions de coûts et des prix, elles profitent certainement aux entreprises, autant qu'à l'environnement et aux consommateurs. Si ces initiatives impliquent des coûts plus élevés, les entreprises les plus proactives s'engagent seulement si elles pensent anticiper des attentes publiques à long terme. Mais là, il y a quand même de nombreuses limites qui apparaissent. La distribution dispose d'installations nombreuses, distribuées sur le territoire, comme on a dit auparavant. Mais elles sont moyennement à faible capitalisation, avec peu de recherche et développement dans le domaine de l'énergie. Seules les entreprises leaders disposent de bonnes marges d'exploitation. L'argent revient. L'intensité compétitive du secteur rend difficile de concilier les objectifs de rentabilité avec ses dépenses en faveur de l'environnement. Et finalement, les efforts des entreprises rencontrent souvent la résistance ou le scepticisme des consommateurs qui s'interrogent sur la sincérité de ces pratiques. Ils parlent de greenwashing. Il se trouve aussi que les entreprises du commerce sont actives, surtout, pas toujours, mais surtout dans les phases finales de la distribution. Il y a certes des secteurs où l'intégration s'est déjà vérifiée et avance. Mais dans les cas où les entreprises du commerce sont seulement dans la phase de la distribution, l'impact sur le développement durable dépend de la consommation d'énergie, surtout pendant les phases précédentes de la production, du transport, de la consommation de produits, là où d'autres acteurs prennent les décisions. Donc, à défaut d'un alignement stratégique de tous les acteurs de la supply chain, les difficultés, les coûts d'offrir des produits durables risquent de devenir insurmontables. Pour chaque produit, les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, sont très différentes dans les différentes phases de la chaîne de valeur. Donc, des problèmes de reconfiguration de la supply chain se posent. Nous avons vu que la croissance des fournisseurs internationaux, la mondialisation du commerce, ont augmenté les émissions globales de carbone. Des coûts et bénéfices existent pour les différents acteurs. Comment arbitrer ? Comment arbitrer quand un standard de durabilité de produits commun à tous les acteurs de la supply chain n'existe pas, fait défaut ? Pourtant, il existe des ressources, des compétences à créer dans ces activités, et certainement les groupes les plus engagés, celles qui s'intègrent d'ailleurs, mais pas les seuls, disposent de plus très importants volumes de marques de distributeurs responsables. Ces marques durables présentent un double avantage. Elles permettent de réduire les coûts et en même temps de poursuivre la différenciation de l'offre à travers l'activité une activité d'éco-conception éventuellement et d'innovation. En effet, évidemment, les coûts ne sont pas les seuls facteurs d'avantage compétitif. Les entreprises explorent des opportunités de différenciation que l'orientation au développement durable peut offrir. Or, en observant les consommateurs, les entreprises découvrent quand même que le comportement des consommateurs est plutôt déconnecté des attitudes positives déclarées par rapport au développement durable. Les consommateurs arbitrent souvent en fonction de la défense du pouvoir d'achat et de leurs préoccupations personnelles. Peut-être pas seulement à court terme, aussi à long terme, mais de leurs préoccupations personnelles. Il existe certes des segments d'usagers de développement durable, très engagés dans la vie quotidienne, des consommateurs de produits équitables, des produits bio, mais tous ces gens, toutes ces personnes sont à la recherche aussi et peut-être surtout d'un produit de qualité, de meilleur goût, plus authentique, plus sain. J'insiste surtout sur le plus sain. Les mêmes facteurs caractérisant les consommateurs de produits écologiques et ceux qui pratiquent le recyclage, une attitude cognitive positive, certes, mais des normes sociales aussi et des normes personnelles. Les principales barrières à l'achat des produits verts seraient, selon des recherches, le prix, la qualité, les compétences des consommateurs qui sont perçues quelquefois comme insuffisantes par manque d'information, la confiance dans la contribution à la défense de l'environnement et la disponibilité de produits. Les entreprises investissent alors surtout là où la demande de consommateurs est plus forte. La recherche de proximité, de localisme, de relations directes avec le producteur, de défense de la santé, du pouvoir d'achat, de cohérence avec une bonne alimentation. Dans la mesure où les produits durables permettent aussi de satisfaire à ces demandes, les consommateurs sont plus disponibles à payer un premium price. Pour les produits non alimentaires, il y a peut-être une différence. Le respect de l'environnement peut avoir une influence plus importante, quelquefois, que le prix sur l'intention d'achat. Mais certes, par exemple, pour les produits bio, les GSA, les grandes surfaces alimentaires, avec leur prix bas, stimulent la croissance du marché sans trop nuire par ailleurs aux spécialistes, avec leur offre plus qualitative et de proximité. Vous voyez des exemples dans les figures. Et d'ailleurs, évidemment, les entreprises n'ont pas toutes la même attitude face aux défis du développement durable. Leurs différences dépendent beaucoup aussi des valeurs de leurs actionnaires, de leurs dirigeants et de leur gouvernance. Chez certains distributeurs, notamment spécialistes et appartenant au monde de la coopération, vous voyez quelques exemples, je pense aussi en France à Biocoop, le développement durable est au cœur même de la création de l'entreprise et de sa mission, de sa stratégie. Donc, leurs stratégies qui sont cohérentes, perçues comme cohérentes avec les valeurs personnelles des dirigeants et des salariés, comme authentiquement orientées au développement durable, le rendent plus légitime aux yeux des consommateurs. Ils jouissent d'une légitime que j'appellerais presque morale. En ce qui concerne les très grandes entreprises généralistes, les enjeux sont bien plus complexes. Pour tous ces groupes, la politique d'information, par exemple, est très importante. La mesure des émissions de CO2, les économies d'énergie, les ingrédients de produits, le label, répondent aux exigences des consommateurs d'acquérir des compétences, de pouvoir mieux arbitrer parmi leurs valeurs. Ce groupe, finalement, vise une légitimité qui serait moins morale que cognitive et sont plus pragmatiques, évidemment. Bien, nous avons vu jusqu'ici que le progrès dans la diffusion de cette, cette croyance, de cette innovation sociale qui serait le développement durable, dépend de nombreux acteurs, des actionnaires, évidemment, de leur patience éventuellement, de leur générosité, des managers, de leur intérêt, de leur clairvoyance, des compétences des chercheurs qui doivent innover, des valeurs des consommateurs, de leur possibilité, de leur capacité d'arbitrer entre ces valeurs. Mais d'autres parties prenantes interviennent. La régulation, qui peuvent avoir un rôle important en influençant les consommateurs, en incitant les entreprises aussi. La régulation publique joue un rôle déterminant par les incitations financières, par exemple, aux énergies renouvelables, les contrôles, les certifications, les labels, la politique d'information. Des mesures de régulation plus incisives peuvent limiter l'utilisation de ressources énergétiques et naturelles. Un marché des permis d'émission ou une taxe carbone, par exemple, une taxe carbone généralisée et élevée, un niveau élevé, comme ça on internalise les coûts des émissions et on optimiserait l'usage des énergies polluantes en s'appuyant sur les mécanismes de marché, comme l'expliquent nos économistes plus éminents, Nicolas Stern, Roger Guenry, Jean Tirole. Mais la mise en place de taxes, déjà le mot, ou de marché, bute assez vite sur des obstacles. Des obstacles administratifs, nous l'avons déjà un peu dit. La mesure des émissions de gaz carbonique est une opération complexe. Mais aussi des obstacles politiques. La nécessité d'accords internationaux. Et j'insiste sur un engagement fort des USA. Bon, vous voyez dans la figure, hein, Donald Trump vient de signer son accord pour deux oléoducs très controversés, mais aussi des obstacles politiques d'autres genres. Vous voyez aussi dans la figure, hein, un portique sur une autoroute bretonne en opposition à l'écotaxe. Donc,
Enrico, deux minutes.
Je finis. C'est mon dernier. Je dirais que l'espoir ne vient pas nécessairement d'en haut, mais malheureusement non plus toujours d'en bas. Pour conclure, de nombreuses limites semblent caractériser les stratégies de développement durable des entreprises. En même temps, il y a aussi des tendances positives. Les distributeurs continueront à investir dans les mesures d'économie d'énergie. D'ailleurs, la chute du cours de l'énergie renouvelable va se poursuivre dans les prochaines années. Ils continueront dans des offres plus proches des préoccupations personnelles et des exigences des consommateurs. Pour gagner de l'argent, évidemment. Mais pourquoi pas? Avec le passage de la propriété à l'usage, au partage, à la location, à la collaboration des consommateurs, de la consommation d'objets, de l'avoir à l'être et au faire, la durée des produits se prolongerait, leur utilisation serait optimisée. Avec la prise en compte de ces nouvelles tendances de consommateurs, des entreprises leaders innovantes, de nouvelles organisations vont apparaître, notamment sous l'impulsion du e-commerce et des plateformes, mieux adaptées aux défis du développement durable. Finalement, un nouveau modèle économique devrait émerger, de croissance, j'insiste, sobre en carbone. Une véritable nouvelle révolution industrielle où la croissance pourrait aller de pair avec la responsabilité climatique. La croissance mesurée différemment, évidemment. J'espère vous avoir fourni quelques pistes d'analyse.
Merci Enrico.
Le colloque n'aurait pas eu lieu sans le soutien de l'ESCP Europe, du Master Métier des études du Conseil et de l'intervention de l'Université Paris Diderot et du groupe La Poste. Il est dédié à la mémoire de Michel Enochberg, professeur d'économie à Paris-Ouest et membre du cercle de l'OPSOCO depuis sa création.